L'écho des gnous, votre guide dans le monde libre. Sur Radio Campus 106.6, le libre n'est pas une jungle. Le libre n'est pas une jungle comme le logiciel privateur. L'écho des gnous.
Bonjour et bienvenue dans ce deuxième numéro hors série de l'écho des gnous, une émission consacré comme le premier hors-série aux dégicalisations de Pierre. Je rappelle pour celles et ceux qui ne sont pas forcément familiers de notre émission que la dégicalisation est une séquence où Pierre réalise la vulgarisation d'un sujet lié évidemment au logiciel libre ou plus généralement aux libertés numériques. Le premier hors-série était consacré à Internet et à la vie privée. Celui-ci est dédié au mainteneur du logiciel libre, à la contribution au logiciel libre. Le premier sujet va justement d'être une démystification de ce qu'est le mainteneur de logiciel libre, et je laisse tout de suite la parole à Pierre.
Le mainteneur de logiciel libre, effectivement, cette espèce étrange, ou cette étrange espèce, les goûts et les couleurs, donc qui que c'est, qu'est-ce que c'est qui fait ? Alors déjà, juste un petit peu de contexte, il y a ces dernières semaines, il y a plusieurs articles qui sont sortis pour expliquer que le monde moderne de l'informatique a été bâti sur la sueur et les larmes de milliers de contributeurs qui n'ont jamais vu la moindre rémunération et ne verront jamais la moindre rémunération. Il s'agit de tous les contributeurs à différents logiciels libres, trop importants pour ne pas être utilisé, mais pas assez important pour être rémunéré.
Parce qu'on parle, beaucoup de contributeurs au logiciel libre, notamment au noyau Linux, sont payés par des entreprises, par IBM,
Red Hat, encore, Intel, voilà.
Donc
Google,
beaucoup qui ont intérêt à le faire.
Oui, ah ben oui. Ah, si le fond, il faut que leur matériel fonctionne, il faut que leur réseau soit le plus rapide possible, etc. Google a fait un travail énorme sur toute la partie réseau du noyau Linux pour essayer de gagner en performance, parce que ben, le but de Google, c'est que les gens utilisent des applications web, donc il faut que le réseau soit rapide.
Donc cet équilibre qui permet également l'existence du logiciel libre, c'est qu'il n'y a pas qu'une seule entreprise qui a intérêt à le faire, mais qu'il y en ait plusieurs, ce qui permet qu'il n'y a pas qu'une seule entreprise, pas qu'une seule organisation qui ait la main mise sur les principaux projets de logiciel libre.
Alors qu'à côté de ça, du coup, des logiciels libres, mais beaucoup moins importants, comme KDE et GNOME, ont une force de frappe, une entreprise derrière. Non, ils n'en ont pas. Ils n'ont rien, justement. Ils n'ont pas de rémunération fixe. Ils vivent comme ils peuvent. J'ai déjà beaucoup discuté avec le mainteneur de Krita, notamment. J'en ai déjà parlé de ce logiciel à plusieurs reprises. C'est l'exemple parfait du drame qu'est la maintenance de logiciel libre. Donc, le mainteneur de Krita, donc avant travaillait au sein de KO, qui était une organisation qui avait été fondée pour gérer le développement de KOffice. Avec l'explosion de Nokia, il y avait beaucoup moins de sous qui arrivaient, puisque Nokia finançait KO pour le développement de la suite Office de ses téléphones portables. Et donc, avec la chute de Nokia vint la chute de ses revenus à lui. Il a tenté de se rémunérer en vendant l'application pour Windows et macOS, donc sur les Play Store et autres, pour une petite somme. Ça lui fait un petit peu de revenus en vendant des dessins, des images, etc. Mais ce n'est pas suffisant. Et c'est bien le problème. Comment faire pour rémunérer un logiciel qui, en temps normal, serait vendu à 100, 200, 300 euros par an la licence, alors que là, non.
C'est notamment ton cas, Pierre. Tu contribues à des logiciels libres, pourtant, c'est pas ton activité professionnelle principale.
Oui, mais là.
Ni même ton activité professionnelle.
Non, mais là, c'est bien le problème aussi. C'est Krita, c'est un logiciel qui, lui, c'est sa vie. C'est son travail, c'est de développer Krita. Il développe Krita tout le temps. Là, il y a quelques temps, il a été sorti de la mouise, on va dire, en faisant juste une annonce, en disant, c'est juste plus possible, je vais pas pouvoir continuer. Et c'est seulement à ce moment-là que tout le monde s'est mis à le rémunérer. Et qui s'est mis à avoir et en fait, il y a même eu des sociétés qui sont venues derrière pour dire, ah maintenant, en fait, on va vous rémunérer pour le travail sur Krita.
Il y a quand même des entreprises que, là, on parle quand même KDE et GNOME, pas grand monde se fait de l'argent en vendant KDE ou GNOME. Au contraire du noyau Linux qui est utilisé par beaucoup d'entreprises, par Google le plus célèbre, Red Hat. Enfin, tu vois, Red Hat va aussi dire, mais c'est pas, voilà. Mais, enfin, le marché du Linux reste soit, quand c'est un Linux complet, on va dire, des PC professionnels, des serveurs, ou, quand c'est, on va dire, utilisé par le grand public, c'est, Android, donc uniquement le noyau. La partie, Linux utilisateur final, qui est directement vendu, est faible.
Dans le cas de Krita, le but, c'est pas de vendre des licences, le but pour les entreprises, et pour des graphistes, du coup, c'est d'utiliser le logiciel pour faire du contenu. C'est parce que le logiciel est adapté à un marché spécifique qu'il a ce succès. Mais par contre, donc là, je vais prendre un peu plus mon cas sur des logiciels que j'essaie de maintenir. Bon, déjà, maintenant, le logiciel libre, c'est un métier qui est quand même extrêmement compliqué. Parce que bon, déjà, c'est un métier, mais vous ne serez jamais vraiment payé. Ou alors, vous faites partie de la minorité qui a un gros coup de bol. J'ai tenté, mais j'ai raté. Maintenant, le logiciel libre, donc du coup, c'est traiter tous les mails de rapports de bugs, traiter tous les rapports de bugs, tous les historiques de rapports de bugs, et Dieu sait qu'il y en a, hein, parce que c'est une grande contribution au logiciel libre, c'est de faire des rapports de bugs. Une autre grande contribution au logiciel libre, c'est de trier les rapports de bugs, s'il vous plaît, c'est vraiment sympa quand vous le faites. Et donc, du coup, pour un logiciel comme Aggregator, le lecteur de flux RSS de KDE, ben, je dois faire tout ça, je dois aussi développer des nouvelles fonctionnalités, corriger des bugs, avoir des idées de nouvelles fonctionnalités, de les développer. Donc là, j'en ai une qui traîne sur mon ordinateur depuis 8 mois maintenant, mais maintenant, il faut que je l'intègre, faut que je mette le coup de polish, faut que je fasse que ça soit utilisé par d'autres que moi, etc. C'est tout un travail qui est assez complexe. Dans un développement logiciel classique, on aurait, sur un projet comme Aggregator, on aurait au moins 3-4 personnes pour gérer... Enfin, on aurait une personne qui ferait de la gestion du projet et une personne pour faire le développement à côté. C'est vraiment compliqué d'avoir une seule personne qui fasse tous les métiers. Mais dans le monde du logiciel libre, non, faut tout faire. Faut faire aussi la communication, faut avoir toutes les idées. Alors, accessoirement, comment on devient maintenant au logiciel libre? Soit en créant un logiciel libre et en le développant, en le faisant vivre nous-mêmes, etc. Il y a beaucoup de gens qui font ça. Soit ben, en adoptant un logiciel libre petit orphelin abandonné qui n'a plus de mainteneur. Et un logiciel libre sans mainteneur, c'est quand même assez compliqué. Ça devient limite un poulet sans tête. C'est, il court encore, il court partout dans tous les sens. Et le pire, c'est qu'il y a des développeurs qui s'amusent à rajouter des ailes dessus en plus, mais il n'y a plus de direction, quoi. Ça, c'est le rôle du mainteneur sur un logiciel libre, c'est de choisir une direction, c'est de l'orienter et de dire, ok, le logiciel, je vais aller dans cette direction-là pour satisfaire un maximum de gens.
C'est un rôle d'homme orchestre, c'est que tu développes, tu fais chef de projet, tu dois même t'occuper de la communication, alors que la communication, quand c'est pas ton travail, c'est quand même quelque chose de compliqué. Déjà, quand c'est ton travail, c'est déjà pas quelque chose de simple, mais quand, dire, c'est pas dans tes talents principaux...
Ah non, mais tu peux me cibler directement.
Non, je parle à nous. On est nombreux dans ce cas-là, Pierre.
Et c'est effectivement, c'est la grande difficulté de la gestion de logiciels libres. Alors, il y a maintenant des logiciels libres qui s'en sortent très bien. Il y en a qui sont doués pour faire ça. Mais même quand ils sont doués, ça suffit pas non plus à leur assurer des revenus et une existence digne, on va dire. Alors, je vais prendre un exemple d'un logiciel libre que moi j'aime beaucoup. Après, c'est un logiciel ici, il a un public spécifique, il s'agit de PG Modeler, qui sert à modéliser des bases de données. Là, on est vraiment sur du domaine très spécifique. Hein. S'il y a des gens que ça intéresse, vraiment, je vous invite à consulter, mais si vous n'avez même pas compris l'intitulé, vous embêtez pas. PG Modeler, c'est un logiciel libre qui est probablement le plus avancé sur ce domaine-là, qui est extrêmement beau, simple, fluide, rapide, mais, le mec, il touche pas grand chose avec. Son business model, c'est dire, si vous voulez le télécharger pour Windows ou pour macOS sous une version directement utilisable, faut m'acheter le binaire. Et vous avez droit à X temps de mise à jour du binaire. Parce que sinon, le code source est libre, et si vous voulez, vous téléchargez le code source et vous le recompilez vous-même. Effectivement, ça permet d'économiser quelques heures de travail aux gens, ça peut valoir le coup. Mais même ça, c'est pas suffisant, il peut pas en vivre. Alors lui, pour le coup, il vit au Brésil, donc le niveau de vie là-bas est plus faible, donc il peut se permettre peut-être de survivre avec le montant qu'il perçoit, mais même là, c'est pas une situation d'avenir pour lui. Et là aussi, du coup, il fait tout. Il fait la communication, la maintenance, le développement, suivre les rapports de bugs, tout. Donc
c'est un travail, ouais, c'est un travail de titan.
C'est un travail de titan. Et donc, sinon, pour en revenir, parce qu'on m'avait posé aussi des questions sur ce que c'était que de faire la maintenance d'un logiciel comme Aggregator, etc. Donc Aggregator, qui est lecteur de
flux RSS.
Flux RSS, KDE, merci. Ben, là-dessus, alors, ce qui est bien, c'est quand on reprend, alors Aggregator, je l'ai pas développé à la base, c'est un logiciel qui date d'il y a plus de 10 ans. Je crois même qu'il date de 2004 ou 2005. Donc c'est vraiment, c'est pas
tu
moi
qui... Tu codais déjà à l'époque, je suis témoin.
Oui, je codais déjà à l'époque, mais j'aurais jamais lancé le projet comme ça tout seul. Et donc Aggregator reprend le logiciel comme ça. Pour l'instant, c'est plus faire du chevet, c'est faire de la veille, c'est dire, bon, il marche bien, c'est bon, on va le faire évoluer comme ça. Après, manque de bol, c'est un logiciel autour du web, et le web, c'est la merde. Ah non, j'ai, désolé, mais... Moi, j'ai un principe, c'est qu'un logiciel sur mon ordinateur, s'il consomme, si je commence à le voir dans la consommation de RAM, c'est que le logiciel a un problème. Parce que j'ai beaucoup de RAM sur mon PC, mais la RAM, elle est pas là pour être gaspillée. Et Aggregator fait partie de ces logiciels-là parce que, ben, il doit afficher du HTML. Et que c'est devenu un métier extrêmement compliqué et que il faut utiliser le moteur de Chrome pour tout et n'importe quoi maintenant, ce qui est, c'est ma plus grande déprime. Donc je m'amuse même, maintenant je vais peut-être bientôt devoir être mainteneur d'un moteur HTML alternatif et j'ai pas envie.
Dur choix Pierre.
Ouais non j'ai pas envie celui-là. Et maintenant le logiciel libre c'est assez horrible et pas très valorisant financièrement. Par contre humainement ça fait vraiment plaisir de se dire ça c'est mon logiciel,
ouais,
c'est mon
petit
à moi, je le développe. Et de se dire ah ben là tiens. Là, il y a deux semaines, j'ai corrigé un bug dans Aggregator qui, moi, m'embêtait. J'avais même pas pensé à vérifier si d'autres gens avaient rencontré le bug et l'avaient signalé. Donc là, je suis allé faire le tour ce matin sur le rapport de bug.
Quand on clique là sur à propos du logiciel, on voit ton nom.
Je me suis même pas mis sur Aggregator, je crois.
Aggregator, tu t'es pas mis. Ah, c'est bête, alors. Si t'es le metteur principal et que tu t'es même pas mis. En tout cas, merci Pierre pour ton implication dans le logiciel libre. Merci à tous ceux qui s'impliquent au quotidien, surtout, toutes les personnes.
Aussi,
on a quelques, entre guillemets, stars, mais tous les développeurs méconnus sont ceux grâce auxquels le logiciel libre existe et est utilisable actuellement.
Après cette première dédicalisation, je vous propose d'écouter un premier morceau de musique. Nous allons donc écouter 55, It's All a Dance. Vous écoutez l'écho des gnous sur Radio Campus 106,6, la radio numérique terrestre, et campuslibre.com. C'était 45, It's All a Dance. Vous écoutez l'écho des Gnous sur Radio Campus 106,6, la radio numérique terrestre et campuslille.com. C'est la deuxième dégeekalisation de cette émission spéciale. Et après vous avoir présenté ce qu'était un mateneur, Pierre va vous expliquer quel est son outillage.
Tout à fait, c'est une petite... Yeah. L'occasion fait le larron, comme souvent, donc il y a une petite actualité en ce moment autour du modèle de développement, on va dire, enfin de l'outillage de développement pour le noyau Linux, et donc c'est un petit peu l'occasion de parler de tout ça, parce qu'il y a beaucoup de solutions qui existent, donc ça permet de faire un petit rappel, et puis ben, pour ceux qui souhaitent se mettre à contribuer à des logiciels libres, à partir du moment où vous en avez des compétences techniques, évidemment, dans le cadre des contributions dont on va parler, et bien ça vous permet de savoir un petit peu dans quoi vous pouvez mettre les pieds. Donc, aujourd'hui, les logiciels libres, il y en a plein, hein, c'est pas une grande nouvelle en soi, mais il n'y a pas une façon de faire du logiciel libre. Et donc là, je vais prendre en exemple quelques-uns qui ont des briques technologiques communes, hein, dans leur façon de travailler, mais qui ont des méthodes de contribution complètement différentes en termes d'outillage. Alors, le premier exemple que je vais prendre, c'est le noyau Linux. Aujourd'hui, pour contribuer au noyau Linux, donc... le cœur du système. Hein. Pour contribuer, vous avez besoin, ben, outre de la possibilité de faire des modifications et de les tester, hein, ça reste la base, mais derrière, si vous voulez soumettre des modifications, vous avez besoin d'un lecteur de mail. Et c'est tout. C'est jusqu'à maintenant, c'était le seul prérequis au niveau du noyau Linux. Ça a marché plutôt bien jusqu'à maintenant, mais ça commence de plus en plus à gueuler en disant... oui, mais tout ça, c'est pas si facile que ça. Il commence à y avoir vraiment trop de gens et trop de mails, donc on ne peut plus suivre tous les mails. En même temps, ça fait quand même quelques années qu'on ne peut plus suivre tous les mails sur le développement du noyau Linux. Même Linux Torvalds ne le fait plus, hein, ça fait un bout de temps. Et par contre, bah, les gens disent « oui, c'est compliqué à utiliser les mails, tout ça ». Alors, c'est pas, le noyau Linux, ce n'est pas le seul projet à travailler comme ça. Je pourrais donner comme exemple aussi le projet PostgreSQL, qui est une base de données libre. Et donc, ben, vous faites une modification, vous envoyez un mail avec « Bonjour, j'ai fait cette contribution, voici en pièce jointe le patch, j'ai fait pour ça, pour ça, pour ça, j'ai testé ça, voilà. Quels sont vos avis ? N'hésitez pas. » Et puis, vous surveillez les mails, vous surveillez les retours, tout ça. Ça marche bien, sauf que... c'est pas assez vendeur, on va dire, pour les développeurs plus jeunes qui, ben, c'est vrai que les mails...
ça devient un truc de vieux.
Ben, ça devient un truc de vieux, putain. Bordel. Ah, ça fait mal.
Ah oui. Attends, est-ce que t'envoies souvent des mails ?
Ah, moi, oui.
De manière... ah oui. Ouais, peut-être parce que... dans le cadre personnel aussi ?
Ouais,
parce que... parce que moi, j'en envoie au travail. J'en envoie quand c'est presque quelque chose de devenu formel, en fait, le mail. Sinon, j'envoie des SMS, des messages, des applis de chat, mais des mails, en fait, j'en vois peu. À part au boulot,
quand même. Moi, ça me fait chier de taper sur un téléphone portable, donc je suis sur mon PC, et puis ben, c'est plus facile d'envoyer un mail, du coup. Hein. Bah. Bref, donc les mails, oui, mais c'est has-been. Alors, du coup, quelle est la solution ? Eh bien, ça devient des applications web. Et c'est là où on commence à voir apparaître un petit dilemme assez rigolo. Donc, on a d'un côté des projets comme KDE, GNOME, FreeDesktop.org et autres qui choisissent d'installer des applications web sur leur propre serveur et de gérer leur code source et leur contribution par le biais de ces applications web, toujours donc sur leur serveur. Donc, l'un des plus utilisés aujourd'hui, hein, ça commence à se raréfier. Il y a 4-5 ans, on pouvait facilement trouver une dizaine de solutions comme ça. Là, maintenant, en solutions qui soient encore développées et mises en place, on trouve surtout du GitLab, ça s'appelle. Donc, ben là, vous voulez contribuer au logiciel, et ben vous allez sur le... mettons, pour KDE, vous allez sur invent.kde.org, vous créez un compte, et puis ben, vous sélectionnez votre projet, et vous faites, hop, nouvelle contribution, et vous signez tout, et puis, hop, c'est fait. Par contre, vous voulez faire le suivi derrière, ben, du coup, vous allez rafraîchir la page, ou vous recevez des notifications par mail, hein, mais bon. À part ça, les mails, c'est has-been, hein, monsieur. Donc, ça reste l'alternative complètement libre. Et il y a une alternative qui se développe de plus en plus, même pour des logiciels libres majeurs, puisqu'elle commence à être envisagée, y compris pour le noyau Linux, et qui me...
tirisse le poil. Qui met mal à l'aise. On sent le
GitHub.
Hein,
voilà. GitHub, à la base, qu'est-ce que c'est que ce monstre ? C'est une petite entreprise qui a décidé de créer un réseau social de développeurs autour du travail de développement qui était fait. Donc chacun publie ses petits projets et on peut voir les projets des autres, etc.
C'est mignon,
hein, sauf que donc tout est propriétaire et fermé. Ils vivent en vendant des versions entreprises, mais le tout tourne sur leur serveur et uniquement leur serveur. Hein. Va pas héberger ça ailleurs. Et puis, évidemment, tu peux récupérer toutes tes données, tu peux récupérer tout ton code source. Oui, donc par contre, récupérer ton historique de bugs, récupérer ton historique de contributions, etc., ça, tu oublies. C'est une plateforme fermée. Point. Alors, GitHub, en plus, a été racheté récemment par Microsoft. Et du coup, c'est là où ça me... Il y a un truc qui me bloque quand même. Contribuer à du logiciel libre, mais devoir tous passer par une plateforme propriétaire, fermée, payée...
Alors, j'avoue qu'il y a une légère contradiction.
Ouais, il y a une contradiction. Et du coup, en profiter pour faire un petit rappel d'histoire au passage, la petite histoire de Git. Donc Git qui est un système de gestion de code source, alors des outils de développeurs. Mais pour la petite histoire, il y a une quinzaine d'années, Linus Torvalds n'était pas satisfait par les logiciels qui existaient. Et du coup, il avait décidé d'utiliser un logiciel propriétaire qui s'appelait Bitbucket. Bitbucket ? Oh, petit trou de mémoire. Je ne suis pas sûr pour le nom, je vais éviter de dire une connerie. Donc il avait décidé d'utiliser un logiciel propriétaire pour ça. Et l'éditeur de logiciel en question, ils avaient dit, bon, pour tous les contributeurs de Linux, on vous fait une version gratuite, il n'y a pas de problème. Par contre, c'est propriétaire, vous jouez pas au con. Et ce qui s'est passé, c'est que quelqu'un a, entre guillemets, joué au con. C'est-à-dire que quelqu'un en question, il a fait, tiens, si j'essaie de me connecter au serveur, sans passer par leur logiciel, et que je fais help pour voir si on me propose de l'aide à distance. Et du coup, l'éditeur a dit « Ah ben là, vous avez fait une connerie, donc on arrête. » Du jour au lendemain, ce qui a été un peu violent. Et du coup, Linus Torvalds, ça devait être vers 2005-2006, a créé l'outil de gestion de code source Git en réaction à cette fermeture pour avoir un système décentralisé sans avoir un acteur central qui ait tout le pouvoir. Et voir donc aujourd'hui le projet Linux, qui est à l'origine de Git, menacé de basculer vers du GitHub, ça me fait tout drôle. Ça me gêne. Il y a un truc qui est pas... L'histoire bégaye.
Je comprends ton désappointement, Pierre.
Voilà.
Avant de passer à la troisième dégeekalisation, nous allons écouter un deuxième morceau de musique. Nous allons donc passer Kit Pristine, Witness of Infinity. Vous écoutez l'écho des gnous sur Radio Campus 106,6, la radio numérique terrestre et campuslille.com.
You can reach all your dreams.
C'était Kate Pristine, Witness of Infinity. Vous écoutez l'écho des gnous sur Radio Campus 106,6, la radio numérique terrestre et campuslille.com. C'est une émission spéciale dédicalisation, le numéro 2 de nos hors-séries. Pierre vous a donc expliqué ce qu'était un mainteneur. Il vous a présenté quels étaient son outillage. Maintenant, on va donc vous démontrer ce qui fait qu'un logiciel libre est particulièrement sécurisé et quelle est sa chaîne de confiance. Oui, parce qu'on a confiance envers un logiciel libre qui est dans une distribution Linux. Pierre va vous expliquer pourquoi.
Pierre, une question intéressante. Comment avoir confiance dans la chaîne de production des logiciels ? Parce que, effectivement, vous ne relisez pas tout le code source de ce que vous avez fait. On fait confiance, par exemple, le projet Debian, on fait confiance au fait que c'était packagé par des gens du projet et que ça a été relu. Et d'où vient cette confiance, Pierre ? Tu vas nous l'expliquer.
Mais attention Alexandre, c'est même pire que ce que tu viens de dire.
Pire que ce que j'ai dit.
Tout à fait. Alors, c'est bien ici, j'ai plus de personnes que d'habitude, ça va m'aider, c'est plus de chances qu'il y ait un souvenir. Si je vous dis w95.cih.
J'en ai pas la moindre idée.
Perdu. Allez, Tchernobyl. Allez,
oui, c'était un virus, oui, c'était...
Oui,
Tchernobyl, oui, j'ai un vague souvenir.
Voilà, vague. Vague, je parle d'un virus informatique des années 98, j'ai la fiche Wikipédia sous le nez, parce que je me souvenais plus de la date, faut pas déconner non plus. Et quel est le rapport ? Pourquoi est-ce que je suis allé chercher, déterrer ce vieux bout de code moisi qui avait été fait par un Taïwanais qui avait eu envie de s'amuser ? Pourquoi que je déterre ça ? Quel est le rapport avec mon sujet ? Allez, François, est-ce que tu te souviens peut-être ? Ouais, non, ça date. Hein.
Non, je dois avouer que... Je
Alexandre, ça te parle pas non plus ?
Non.
Vraiment, faut que je trouve des gens plus vieux pour traîner.
Désolé, Pierre.
Du coup, donc, pourquoi parler de ce virus ? Il a été assez connu à l'époque parce qu'il avait fait pas mal de bruit pour sa propagation, parce qu'en fait, il avait été diffusé par des éditeurs de jeux vidéo, notamment. Des démos des éditeurs de jeux vidéo étaient corrompus et infectés. Des magazines ont eu des... Parce qu'à l'époque, on distribuait des CD dans les magazines avec les logiciels dessus. Des CD de magazines avaient été corrompus et infectés par le virus. Et donc, quand on mettait le CD et qu'on lançait les programmes infectés sur le
ordinateur... C'est vrai que c'est rare, au final. Je sais que quand j'ai commencé l'informatique, enfin, commencé dans les années 90, c'est vrai qu'on avait peur des disquettes infectées, ce genre de choses. Mais on s'est rendu compte assez vite que la principale source de virus, c'était quand même Internet, les pièces jointes. C'était rarement, en fait, tu avais rarement le risque d'attraper un virus qu'en mettant le CD d'un logiciel.
Tout à fait. Donc, c'était un petit exploit qu'il soit allé jusque-là et qu'il ait contaminé autant de logiciels. Alors, après, il est nommé Tchernobyl parce qu'il avait une particularité, c'est qu'il s'activait le 26 avril. Donc, c'est-à-dire qu'on pouvait avoir le virus pendant des mois sur la machine, il pouvait se répandre. Sans s'activer, il suffisait d'avoir le virus qui soit installé au mois de mai et il pouvait se répandre pendant 11 mois sans rien dire. Mais du coup, pour revenir à notre sujet, ce qui est intéressant, c'est que l'éditeur qui diffusait sa démo de jeu vidéo et que la démo de jeu vidéo était corrompue avec un virus. Mais l'éditeur, son code source était correct. Il a rien fait. Il a fait un logiciel qui était très bien. Et puis, peut-être en tout cas. Et le logiciel a été diffusé, et c'est entre le moment où l'éditeur, enfin le développeur, a dit « Ok, mon code est correct, je l'envoie », et le moment où le code est arrivé, compilé dans la machine de l'utilisateur final, c'est là qu'il y a eu une couille dans le potage, pour parler poliment. Et du coup, quoi qu'on fait ? Comment on peut faire pour avoir confiance dans cette chaîne ? Alors, dans le cas du logiciel propriétaire, la réponse est simple, prier.
Vous devez faire confiance à l'éditeur du logiciel.
C'est une base.
Et au distributeur du logiciel, celui qui a pressé le CD.
Dans le cas d'un CD, si on prend dans le cas d'une diffusion par Internet, il faut avoir confiance sur le fait que ça n'ait pas été altéré. Alors maintenant, il y a des signatures numériques, mais c'est automatisé chez les vendeurs chez les entreprises comme Microsoft ou Apple ou autre. Quand ils signent des logiciels, c'est pas chaque développeur qui signe avec sa petite clé à lui. Il y a une signature centrale. Et donc, ils ont un processus, ils ont des contrôles, oui. etc. Mais il n'y a pas de possibilité pour vous d'être certain à 100% de ce qui tourne, de ce que vous avez reçu.
Vous faites confiance aussi au fait que Microsoft n'a pas spécialement d'intérêt à diffuser des logiciels avec des virus.
Non, ils diffusent des merdes, mais c'est pour d'autres raisons. Voilà. C'est un intérêt économique avant toute chose. Dans le cas du logiciel libre, par contre, là, on peut commencer à se... Le jeu est déjà plus intéressant, puisqu'on a plus d'éléments, on sait déjà plus de choses. On sait obtenir le code source, on sait obtenir des instructions pour reproduire, recompiler le logiciel. Alors, on va pas rentrer dans tout le détail de « oui, mais est-ce que je peux faire confiance à mon compilateur ?» Est-ce que je... Là, on peut très bien... Alors, ça devient du débat philosophique, quasiment.
Est-ce que je fais confiance à mon microprocesseur aussi?
Tout à ouais. fait. Donc,
il n'y a pas un jeu d'instructions tapique dans un coin, quelque part, qui
là,
corromprait mon code.
Tout à fait. Ces niveaux de paranoïa-là, ils existent, ils sont légitimes dans certains domaines. C'est pour ça que des pays comme la Chine s'amusent à fondre leurs propres processeurs, pour certains besoins militaires notamment, en prenant des processeurs américains dont le code source est disponible, et en disant « alors par contre la partie chiffrement, on va mettre la nôtre, hein, on va pas laisser le chiffrement américain ».
Oui, enfin le chiffrement souverain c'est quand même la base, mais bon.
Tout à fait. Mais du coup, pour revenir à du particulier, moi quand je reçois mon logiciel sur, notamment sur une Debian, je reçois un paquet, je vérifie, le système vérifie automatiquement que le paquet est signé. Le paquet a été reçu, que c'est bien le paquet tel qu'il avait été envoyé sur le serveur. Mais est-ce que ce qui a été envoyé sur le serveur, ça correspond au code source du logiciel que j'ai là? C'est un problème. Donc du coup, qu'est-ce que je fais? Je recompile le code source.
Ça se fait d'ailleurs dans certains usages très précis, où on a besoin d'une grande confiance, on recompile tout.
Tout à fait. Et... problème.
Il faut aussi relire le code.
Tout à fait, mais je recompile le code et je me rends compte que ça génère pas exactement le même binaire que celui qui m'avait été envoyé. Qu'est-ce que je fais? C'est où il est le problème? Et c'est là qu'on arrive sur un projet, on n'en parle pas trop parce que c'est un projet très technique de la part de Debian, mais je trouve que c'est important de mettre ce genre de projet en avant, c'est aussi pour ça un peu que je fais cette dégicalisation. Il y a un projet chez Debian qu'on appelle les Reproducible Builds, donc les constructions reproductibles de paquets. L'idée c'est que on vous donne tous les éléments, et vous savez que si vous avez tous ces éléments-là, que si vous avez le code source, telle version du compilateur, telle version du système, vous recompilez, vous allez obtenir au bit près le même résultat. Ce qui vous permet, et c'est seulement avec ce genre de système, que vous pouvez avoir vraiment confiance dans la chaîne de production d'un logiciel. Et je me doute que personne ne va aller jusqu'à vérifier tous les logiciels. D'ailleurs, actuellement, le projet Debian a atteint... C'est un petit peu triste parce qu'ils ont pas mal avancé dessus ces dernières années, mais là, cette année, ça n'a pas beaucoup progressé malheureusement. Ça a même un tout petit peu régressé en nombre. Ils ont déjà, ils ont à peu près entre 2 tiers et 7 huitièmes des paquets sur Debian qui sont reproductibles. C'est-à-dire que vous téléchargez le code source et vous pouvez reproduire exactement la même chose. Et donc, vous pouvez être certain que ce qui tourne sur votre machine, eh ben, vous savez ce que c'est. Vous pouvez le vérifier vous-même. Et j'ai envie de dire, même si vous ne le vérifiez pas vous-même, savoir que vous pouvez le vérifier, c'est déjà, je trouve, une sécurité en soi. Et donc, ça mérite d'être mentionné.
C'est ça, avec le logiciel libre. Hein, c'est que le principe, c'est que même Pierre, qui est un développeur chevronné, ne relie pas le code de tout ce qu'il utilise comme logiciel. Pourtant, le fait que ce code il est public, puis être lu, et bon, notamment le noyau, on sait très bien que c'est relu par des développeurs du noyau, peut-être même des fois par Linux Torvalds. Le fait que le code puisse être lu, c'est justement ce qui nous donne confiance.
Tout à fait.
Ce qui est quelque chose d'assez peu intuitif, on rappelle toujours, un des arguments utilisés contre le logiciel libre, c'est oui, si tout le monde peut lire le code, on peut voir les failles de sécurité, mais du coup, on peut les corriger plus facilement.
Mais donc, avoir confiance dans le code source, c'est une chose. Avoir confiance
ouais.
dans ce qui nous est envoyé comme transformation du code source, puisque le code source,
ouais, c'est la même logique.
Ça marche pas.
Oui, c'est on n'est plus au même niveau, mais c'est la même logique.
Mais voilà, mais c'est un niveau, c'est pas courant, effectivement, il n'y a C'est le projet Debian est assez innovateur là-dessus. Aujourd'hui, c'est pas imposé de leur côté parce que ça supprimerait quelques milliers de logiciels de la distribution, ce qui est pas du tout dans les objectifs. Mais ils aimeraient bien à terme que ce soit obligatoire, qu'un logiciel intégré sur Debian doit être reproductible. Et accessoirement, j'ai envie de dire, ça ferait du bien parce que de plus en plus, on voit arriver sur le marché des logiciels libres avec des très très grosses pincettes. Hein. Moi, j'ai envie de dire, c'est plus des logiciels open source que libres, hein, notamment les produits de chez une entreprise qui s'appelle Microsoft. Et donc, ces produits-là, alors, si vous regardez, si vous voulez les recompiler chez vous, des fois, ça demande à se connecter à des serveurs Microsoft. Ah zut, on a oublié, pardon. On a oublié de vous mettre à disposition ce code-là. Ah, pardon, on va l'ajouter. Ah, on a oublié ça. Non, mais là, ça prend un binaire. C'est bon, il n'y a pas de problème. Microsoft n'a pas cette politique-là du reproductible et je trouve que c'est quelque chose qui manque pour avoir réellement confiance dans le logiciel. Et dans le cas de Debian, du coup, ben, s'ils se mettaient à l'imposer, il y a des logiciels qui partiraient à la poubelle et
Oui, tu verrais pas ça d'un mauvais œil.
Ah, moi, non, je serais content. C'est bon débarras.
Merci Pierre. Et comme vous le savez peut-être, nous écoutons des morceaux de musique libre dans cette émission, de la musique sous licence Creative Commons. Et nous allons donc vous en proposer un troisième dans cette émission, c'est Winter, Carrying Goodness. Vous écoutez les codes Gnou sur Radio Campus 106,6, la radio numérique terrestre et campuslille.com. Phone rings, it's night. Two nights of sleep, blown my head, don't know what to do. I know it's true. I don't wanna say it, but you leave me way less than I need you. I know you want a space so you can think about us. The silence is killing me and I'm freaking out. Wanna say all the words, I wanna erase your doubts. But I don't know how, no I don't know how. If I could find a way to tell you that I'm sorry that I left you brokenhearted and I wish I never hurt you. You could find a way to let me try again. No, I could be a better man. Yeah, I promise if you could just find a way, hey, 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 then I know we could find a way, hey, 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 hey. Yeah, if you could find a way, hey, 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 then I know we could find a way, hey, 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 hey. Find a way back. I try to kill the time and let go, but it's the needing to know that eats you up inside. Thinking about how we got so low. Cause it was all the little things, conversations and wedding rings had me feeling like we had it all. Don't let this moment of doubt keep us from working it out. We didn't build this just to watch it fall. If I could find a way to tell you that I'm sorry that I left you brokenhearted and I wish I never hurt you. You could find a way to let me try again. No, I could be a better man. Yeah, I promise if you could just find a way, hey, 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 then I know we could find a way, hey, 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 hey. Yeah, if we could find a way, hey, 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 then I know we could find a way, hey, 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 hey. Find a way back. I don't have all the money in the world, but I have given all to you. Good times, bad times, want all more, ever more than with you. Things get harder, you can lean on me. No, it won't be easy. But if you could find a way, hey, 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 then I know we could find a way, hey, 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 hey. Yeah, if you could find a way, hey, 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 then I know we could find a way, hey, 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 hey. Yeah, if you could find a way, hey, 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 then I know we could find a way, hey, 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 hey. Yeah, if you could find a way, hey, 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 hey. Then I know we could find a way, eh, 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 find a way back. C'était Winter, Carrying Goodness. Vous écoutez les codes Gnou sur Radio Campus 106,6, la radio numérique terrestre, et campuslille.com. C'est terminé pour cette émission concernant les dédicalisations. Maintenant, nous allons vous laisser avec une sélection de musique libre et nous revenons en direct au plus vite. Merci à tous de nous avoir écoutés et à très bientôt. Sous
souris et tes pleurs. Tu m'as tiré, m'enlace, hélas, j'aspire ton air et ton rire, m'enivre et m'égare. Lazare se lève et se bat. Et là-bas, je déraille. Et là-bas, je déraille. Dans les méandres adultères de tous tes frissons liquides, tu m'attires, m'enlaces, hélas, j'aspire ton air et ton rire, m'enivre et m'égare. Lazare se lève et se bat, et là-bas je déraille. Et là-bas je déraille. Comme la foudre et comme l'inverse. Un peu trop tard, beaucoup trop tôt. Toute une vie en surface, et ce sable entre mes doigts. Était-ce elle, était-ce toi, cette fille nue dans la glace. Mais tu m'attires et m'enlaces, et là j'aspire ton air et ton rire. M'enivre et m'égare, m'enivre et m'égare. Goodbye.
you said it's fine. I was the last in line, and that's what stands. Protect your feelings while mine aren't worth the time. I'm set from all the good things you think your life brings. It's centered on you, a fiction told from all the lying. Oh yeah, oh yeah.
Sing to me, tell me that I'm not the one. Not just any song, I let you be this one. You know my secrets, you know my fears. I feel how I'm a victim, I'm trapped in all your tears. I'm in every word your lips are shaping.
L'écho des gnous, votre guide dans le monde libre. Sur Radio Campus 106.6, le libre n'est pas une jungle. Le libre n'est pas une jungle contre le logiciel privateur. L'écho des gnous.